Avez-vous déjà entendu des gens dire « Je suis chrétien parce que mes parents le sont » ou « Je suis chrétien parce que je vais à l'église » ou « Je suis chrétien parce que je suis gentil et honnête » Dans le domaine religieux, comme dans d'autres domaines, il est parfois difficile de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ressemble au vrai. La Bible parle souvent des faux dieux et des faux prophètes. Nous allons ce matin regarder deux textes qui ont des éléments communs, mais aussi de grosses différences. Le premier se trouve dans Exode, chapitre 32. Exode 32, verset 1. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Détachez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Aussitôt, tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis l'annonça à haute voix « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Je reprends au verset 15. Moïse s'en retourna et redescendit de la montagne, tenant en main les deux tablettes de l'acte de l'Alliance. Elles étaient gravées des deux côtés sur leurs deux faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était celle de Dieu gravée sur ces tables. Quand Josué entendit les clameurs poussées par le peuple, il dit à Moïse « Écoute, il y a un bruit de guerre dans le camp. » « Non, répondit Moïse, ce ne sont ni des cris de victoire ni des lamentations de défaite. C'est un bruit de chanson que j'entends. » Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les chœurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Puis il fit boire cette eau aux Israélites. Ensuite, il demanda à Aaron « Que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'entraînes à se rendre coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit « Que mon Seigneur ne se fâche pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal. » Ils m'ont dit « Fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Je leur ai donc répondu « Que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent. » Ils m'en ont remis, je l'ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. Je reprends au verset 31. Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit « Hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un très grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » L'Éternel répondit à Moïse « J'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. Maintenant, va. Conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi, mais au jour où j'interviendrai, je les châtierai de leur péché. » L'Éternel châtia le peuple à cause du veau d'or qu'il avait fait fabriquer par Aaron. Et avant de passer au deuxième texte, je vous signale au passage, ou je vous rappelle plutôt, qu'au fond de la salle, il y a une exposition sur les 10 commandements, et que dans cette exposition, il y a notamment un tableau de Rembrandt, c'est le numéro 7, qui montre cette scène de Moïse qui détruit les tables de la loi. Le deuxième texte que je voulais voir avec vous ce matin se trouve dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc 15, 11. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » J'ai intitulé ce message « Un veau et des danses ». En effet, ce sont deux parmi les plusieurs éléments en commun que l'on retrouve dans ces deux textes. Et Dieu voulant, dans cette prédication aujourd'hui, je vais m'intéresser au sujet du veau et on verra le sujet des danses et d'autres sujets dimanche prochain. Alors oui, il y a un veau dans les deux cas. Dans le premier texte, il s'agit d'un veau en or. Et dans le second cas, c'est un veau sous forme de viande. Le premier veau est une idole que les Israélites impatients on demandait à Aaron de leur créer pour les guider, un dieu en or à figure animale. Pourtant, les Israélites venaient de quitter les dieux de l'Égypte. Et dans Exode 12, verset 12, Dieu annonce qu'il juge tous les dieux de l'Égypte. Exode 12, 12, « Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Dans la mythologie égyptienne, beaucoup de dieux étaient représentés par des animaux. Mais le peuple, qui vient d'être libéré par Dieu, veut se remettre sous le joug de l'esclavage. Et c'est ce que reprochera Paul aux Galates, dans Galates chapitre 5, verset 1. Galates 5, 1. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Nous savons que dans la Bible, l'Égypte symbolise souvent le monde. Nous savons aussi combien ce peuple soupirait après un retour à ce pays qui pourtant les avait maintenus en esclavage. Nous pouvons voir ça dans Nombre, chapitre 11, versets 4 et 5. Nombre 11, 4. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors, les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. » Alors oui, ils préféraient un Dieu visible qu'ils avaient créé selon leur volonté et leur goût, plutôt qu'obéir à ce Dieu invisible qui leur faisait traverser un désert et leur avait donné un guide dont ils n'avaient plus de nouvelles depuis qu'il était monté sur cette montagne. Quelle est notre situation? Est-ce que nous soupirons après les plaisirs du monde? Est-ce que nous voulons un Dieu à notre image, en oubliant que c'est lui qui nous a fait à la sienne? Au moment même où le Dieu unique se révélait à Moïse, en interdisant les idoles, le peuple tombait dans l'idolâtrie par peur et par facilité. Exode chapitre 20, 1 à 5, voici ce que Dieu révélait à Moïse. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Aaron, tel Pilate plus tard devant Jésus, préférait contenter ce peuple, quitte à désobéir au Seigneur. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi comme porte-parole pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Et Ginka a rappelé dimanche dernier dans sa prédication que Moïse avait voulu argumenter avec Dieu en s'excusant en disant qu'il ne savait pas parler. Et c'est à cause de cela que Aaron a été choisi justement comme porte-parole. De plus, il s'agit ici d'une parodie de culte, où malgré leurs prétentions, ce n'est pas l'Éternel qui est adoré. C'est aussi un culte où règne le désordre, contrairement aux instructions que donnera Paul dans la première épître aux Corinthiens, où il rappellera que Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 33, Paul nous dit « Dieu en effet n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et au verset 40, il répète « Veillez à tout ce que se... mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. » Et c'est vrai que dans certains milieux, nous pouvons voir aussi des cultes où c'est le désordre qui règne. De même, ou nous accusons Dieu d'être responsable de nos malheurs, ou nous lui reprochons du moins de ne pas résoudre nos problèmes aussi vite et simplement que nous le voudrions. Adam a accusé Dieu d'avoir mis auprès de lui la femme qui, selon lui, l'a poussé à pécher. Marie de Béthanie reprochera aussi à Jésus de ne pas être venu assez vite pour sauver son frère Lazare. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est toujours souverain et tout-puissant. Et ici, l'erreur du peuple et celle d'Aaron, d'abandonner le vrai Dieu et d'en suivre un faux, est la pire erreur que nous puissions faire, même au comble du désespoir. Lisons ce que l'apôtre Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 1, verset 9, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est exactement le contraire qu'a fait le peuple dans ce texte. Il s'est détourné du Dieu vivant et vrai pour servir les idoles. Dans l'Épître aux Romains, Paul démontre la culpabilité d'une humanité qui est devenue idolâtre en adorant la création au lieu du Créateur. Romains chapitre 1, verset 19. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée, dépourvue d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Et dans ce passage, Paul nous dit « Alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu. » Et c'est ici peut-être le plus pervers dans ce texte que nous avons vu par rapport au veau d'or, c'est que Aaron s'est écrié au verset 5 de Exode 32 « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Et pourtant, clairement, cette fête n'était pas en l'honneur de Dieu. Ils ne lui ont pas rendu l'honneur que l'on doit à Dieu, et ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes, comme le dit l'Épître aux Romains. Et en plus, il ne s'agit même pas d'un vrai animal ici qui est adoré. Jérémie, au chapitre 10, versets 14 à 16, dit, Jérémie 10, 14, « Alors tout être humain reste hébété, ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie qui n'a aucun souffle de vie. Ils ne sont que néant et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. » Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob? Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Alors je lis dans la traduction du Semeur, mais j'ai trouvé intéressant ce terme dans ce passage contre l'idolâtrie, quand on nous dit que Dieu a tout façonné. Et effectivement, c'est lui qui a créé toute chose et qui a façonné l'homme à partir de la terre. Et ici, les Israélites ont façonné un faux Dieu. Ils se sont pris eux-mêmes pour Dieu et ils ont créé leur propre Dieu. Le psaume 106 disait déjà au verset 19 à 24, psaume 106, 19 à 24, « À Horeb, ils ont façonné un veau pour se prosterner devant du métal. » Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre un ruminant qui broute de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur, et ses exploits accomplis en Égypte, ses grands miracles au pays de Cham, ses prodiges sur la mer des roseaux. Aussi Dieu décida de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Qu'en est-il du veau dans la parabole du fils prodigue ? Là, il s'agit d'un véritable veau qui sert de repas de fête pour le retour du fils perdu. Le veau, dans l'Ancien Testament, fait partie des animaux que l'on pouvait sacrifier pour obtenir le pardon des péchés. C'est donc intéressant que ce soit le Père lui-même qui ordonne le sacrifice de cet animal pour fêter le retour de son enfant repentant. Rappelez-vous que ce même Dieu avait fait le premier sacrifice animal après le premier péché dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Concernant ce veau gras, le psaume 66 parle aussi d'une offrande de bête grasse. Psaume 66, verset 15. Je t'offre en holocauste les bêtes les plus grasses, des béliers avec de l'encens, j'immolerai des taureaux et des boucs. Mais le veau gras dans la Bible est souvent symbole de festin, de repas de fête, souvent réservé aux hôtes de Marc. Ainsi, dans Genèse chapitre 18, au verset 1 à 8, Genèse 18, 1 à 8, Abraham demande à sa femme Sarah de préparer le veau gras pour les trois mystérieux personnages venus leur rendre visite. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. Puis vous vous reposerez là, sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah « Pétris vite trois mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux trois hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Nous avons donc d'un côté un veau qui est une idole adorée à la place du vrai Dieu, qui est faux et donc n'a aucun pouvoir ou utilité réelle, mais qui néanmoins a coûté beaucoup d'or pour être construit et finalement détruit par la suite. Nous aussi, nous pouvons parfois perdre du temps, de l'énergie, de l'argent pour créer des choses qui ne servent à rien et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce veau aussi représente la volonté du peuple de retourner vers l'esclavage du monde et la facilité plutôt que de suivre Dieu et l'homme qu'il avait choisi. De l'autre côté, nous avons un repas savoureux et festif et nous avons le symbole du pardon des péchés. Un autre petit animal innocent mais sacrifié représentera Jésus dans ce rôle, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, pour terminer cette première moitié de prédication aujourd'hui, que choisissons-nous ? Ce qui va vraiment nourrir notre âme ? Le vrai Dieu qui pardonne ? Ou bien une idole inutile qui va nous entraîner dans encore plus de péchés ?